I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque semaine avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Nathaniel Drew, qui est youtubeur américain, qui parle parfaitement français comme vous l'entendrez dans cette interview, qui vit à Paris, mais qui produit ses vidéos en anglais, histoire de pouvoir parler au monde entier comme il le dit lui-même. À 22 ans, celui qui préfère qu'on l'appelle Nathan, donc on va l'appeler Nathan, fait notamment des vidéos plutôt tournées vers le développement personnel après avoir lancé sa chaîne YouTube à l'âge de 17 ans. Comme il le raconte, il aura mis 4 ans à combler le vide entre ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il savait faire, avant de tourner la vidéo qui lui aura permis de décoller et de faire exploser sa chaîne à plus d'un million d'abonnés. Il raconte ici pourquoi il a décidé de venir vivre en Europe alors qu'il est citoyen américain et d'où lui vient son amour pour les langues étrangères. On discute aussi de la pression de gérer un million d'abonnés et de cette sensation qu'il a d'avoir passé, comme il le dit lui-même, un pacte avec le diable alors qu'il crée du contenu dans cette économie de l'attention que sont YouTube et les réseaux sociaux. Enfin, on parle du dernier docu de Netflix justement à propos des réseaux sociaux que je vous conseille grandement de regarder et qui s'appelle en français « Derrière nos écrans de fumée ». Merci beaucoup à Nathan d'avoir joué le jeu de l'interview en français. Je vous invite à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas et à checker ses vidéos. Vous verrez, il a un œil particulièrement intéressant sur les choses. De mon côté, je vous donne rendez-vous chaque jeudi matin à 6h du mat dans votre appli de podcast préféré ou sur Spotify pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais en attendant, je vous laisse avec Nathan ou Nathan, comme vous voulez. Donc, on est avec Nathan, Nathan.
Nathan, voilà, Nathan en français.
Est-ce que les gens disent... Comment tu te présentes à deux
fait, en c'est drôle.
Dis, salut, je suis Nathan. Parce qu'en fait, ton vrai prénom, c'est Nathaniel.
Nathaniel, je suis né, voilà, avec ce prénom-là. Ouais. J'aimais pas du tout en grandissant.
Nathanael.
Voilà, voilà, Nathaniel en anglais. Ouais. Et donc, on m'appelait tous Nathan. Pas Nate, pas Nathaniel, juste Nathan.
Et pourtant, tu as quand même. Tu te décris quand même sur ta chaîne YouTube et sur tes réseaux comme Nathaniel.
Nathaniel ou bien Nathan, en fait. Okay. Dans ma vie privée, c'est plutôt Nathan ou Nathan. Donc, quand je rencontre quelqu'un, je dis toujours vas-y, tu peux m'appeler Nathan. Donc, pareil avec toi. Hein, là.
Bon, je t'appelle Nathan alors.
Ça marche.
Comment tu te.
Si on continue à ce rythme, cette interview va durer.
T'inquiète.
4 heures.
On a le temps.
Toute l'analyse sur mon prénom.
Ça c'est mon problème, d'accord. Le mec est déjà en train de penser à mon montage.
Il y a aucun souci. Bah, tu vois, c'est le cerveau qui est adapté au contenu, quoi. Enfin, ouais. je pense toujours au format et je trouve ça. Mais c'est vrai que pour les podcasts, ça peut facilement durer une heure, deux heures, ouais. Et les gens aiment bien.
Comment tu te décrirais? Est-ce que tu dirais que t'es youtubeur?
Au bout d'un moment, il faut assumer. Il faut assumer. Mais c'est vrai que j'aime pas trop la connotation qu'on lui donne. Enfin, c'est vraiment grâce à YouTube que j'arrive à faire passer mon message pour l'instant. Et voilà quoi. Mais j'aime bien créateur de contenu, alors que ça veut rien dire. C'est vraiment vague comme terme.
Ouais, mais ça veut dire que tu peux le poster partout. Que t'es pas forcément attaché à YouTube, quoi.
C'est ça. Mais
ceci dit, aujourd'hui, ta plus grosse communauté, elle est sur YouTube.
Voilà, c'est ça.
T'as combien? T'as 1 million, presque 200 000 abonnés, c'est ça?
Ouais, un truc comme ça, voilà. Ouais.
Tu checkes pas trop les...
En fait, j'ai fait vraiment des efforts pour ne pas trop regarder tout ça, parce que ça veut pas dire que j'ai réussi, hein, mais je fais quand même des efforts de ne pas trop me concentrer sur les chiffres et la quantité de vues et les quantités de j'aime, les quantités de commentaires. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un truc assez... comment dire? Pas normal. Ça, c'est pas le bon terme. C'est plutôt on n'est pas adapté à vivre comme ça. Tu okay. vois, biologiquement parlant, je trouve que vraiment, et ça se sent, en tant qu'humain, on est fait pour des petites tribus, quoi. Enfin, on est pour des petits groupes. Ah, c'est oui. vraiment nouveau avoir autant d'accès aux autres. Et du coup, c'est normal que ça fait mal. Quand tu reçois un mauvais commentaire, on l'a tous dit, on comprend tous. Donc, c'est vachement bizarre pour moi, même aujourd'hui, même après avoir pris la décision consciemment de faire ce que je fais,
ouais.
d'avoir cet accès à autant de monde, tu vois. Donc,
parce que c'est à la fois grisant, j'imagine, il y a un côté un peu génial, en fait, de se dire, bah, quand je poste une vidéo, d'un coup d'un seul, il y a 1 million de personnes qui peuvent y avoir accès. Alors, ils n'y ont pas forcément tous accès parce que YouTube a décidé parfois, l'algorithme, il fait un peu ce qu'il veut, quoi.
Ouais. Et en plus, d'ailleurs, il y a des ouais. différences entre le monde anglophone et francophone, à mon ouais. avis.
Dans quel sens tu...
Il y a beaucoup moins de concurrence dans le monde francophone. Donc, je trouve que si tu analyses, et c'est pas bien, tu vois, genre, moi, je rentre de nouveau dans l'analyse, mais si tu regardes la quantité de vues en moyenne par rapport à la quantité d'abonnés, par exemple, pour un YouTuber français, comparé avec un YouTuber américain, c'est beaucoup plus élevé dans le monde francophone parce que je trouve que tu as plus d'accès, quoi. Il y a moins de concurrence, alors qu'il y a énormément de compétition dans le monde anglophone. Donc, du coup, ça, je pense que ça paye mieux. Et c'est intéressant de pouvoir accéder possiblement, si tu arrives à faire des choses ouais. qui deviennent virales, le monde entier. Mais du coup, c'est plus de pression, quoi.
Ok. Mais je me disais aussi que si tu faisais tes vidéos en français, par exemple, ça réduit forcément beaucoup plus la population qui peut y avoir accès. Et donc, potentiellement, peut-être que ton 1 200 000 abonnés, peut-être que si tu faisais en français, tu aurais peut-être que 200 000 abonnés, quoi.
Mmh. C'est possible.
Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est quand même, je trouve que, eh bien, je le dis parce que j'ai le privilège d'avoir accès ouais. quasiment au monde entier avec l'anglais.
Ouais.
Je me dis, waouh, c'est cool quand même avoir une connexion aussi forte avec, par exemple, le pays d'où tu viens, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que s'il fallait choisir entre les deux, je choisirais quand même ma situation.
Oui. Je te comprends.
Parce que, mais du coup, quand même, c'est ouf, hein. Il y a des gens qui, enfin, tu donnes cet exemple. Si j'avais 200 000 abonnés en France qui me suivent vraiment, je pense que je recevrais plus ou moins exactement la même quantité de,
oui, sans doute.
De vues que je reçois en ce moment, tu vois.
Oui, parce qu'en ce moment, donc pour resituer un petit peu, mais on est peut-être très technique, je ne sais pas si c'est chiant ou pas, mais peu importe, on verra. Mais tu es entre 200 et 300, 400, 500 000 vues, c'est ça quand tu postes
voilà,
une vidéo.
Voilà, je pense que, ouais, exactement. De temps en temps, je publie une vidéo qui arrive à 1 million, tu vois, ouais. un truc comme ça. Mais déjà, si ça arrive à 400, 500 000, ça a très bien marché, tu vois. Et si ça n'arrive pas à percer les algorithmes ouais. ou quoi que ce soit, c'est 200 000 peut-être, ouais. tu vois. Donc, déjà, beaucoup. Hein. Enfin, je suis hyper reconnaissant
C'est beaucoup, mais par rapport à ce que YouTube pouvait proposer dans le passé, où voilà. c'était très simple de faire 1 million de vues.
C'est exact. Ouais, exactement.
Quand tu commençais à avoir un peu d'abonnés, hein, tu avais une traction qui se jouait au niveau des vidéos recommandées, etc.
Et en fait, je trouve ça frustrant, quoi. Enfin, je pense que c'est. Je pense que je m'en fous, en fait, de la quantité d'abonnés. Je préfère l'accès aux gens, tu vois. Donc. Je prendrais la moitié des abonnés que j'ai en ce moment pour avoir plus d'accès à ces personnes-là, tu vois.
C'est un des trucs, moi, qui m'a beaucoup frustré sur YouTube et notamment sur la chaîne de Mademoiselle à l'époque, c'est qu'on avait énormément de contenus différents. Tu vois, toi, tu fais un contenu où tu creuses une ligne, on en parlera un petit peu après, mais tu es dans une ligne de développement personnel, on pourrait appeler ça comme ça. Sur Mademoiselle, on avait plein de trucs, tu vois, on avait de la musique, on avait des vidéos où on parlait de fringues, des vidéos humoristiques, etc. Donc, en fait, les gens s'abonnaient, mais pour peut-être un truc, si tu veux. Et au fur et à mesure, on finissait, à la fin, on avait 500 000 abonnés, plus de 500 000 abonnés à la chaîne. Mais nos vidéos, elles faisaient entre 10 et 12 000 vues à chaque fois, maximum. Parce qu'en fait, on avait eu énormément d'abonnés qui s'étaient. Alors, déjà, je pense qu'on avait beaucoup qui venaient de l'étranger pour suivre la musique, qui est universelle pour le coup. Mais dès qu'on faisait du contenu en français, ça intéressait plus personne. Et j'avais demandé à YouTube, est-ce que vous avez un outil pour enlever tous les abonnés inactifs? Parce qu'en vrai, moi, je préférerais, comme tu dis, en avoir 100 ou 200 000 plutôt que d'en avoir 500 et de pouvoir avoir les abonnés actifs, quoi. Ils n'ont pas ça. Et donc, de ce fait-là, je trouve que c'est un peu... C'est un peu idiot, quoi.
Ouais, et je peux rajouter aussi le fait que... Je sais pas, je pense que c'est aussi ma faute. Je trouve qu'en tant que créateur, et ce que je fais, et ce qui m'intéresse, en fait, ça évolue tout le temps. Et du coup, je pense que YouTube aime bien quand... ou bien les réseaux sociaux de manière générale. Je pense que je connais YouTube plus que les autres. Mais je pense que sur Internet, ça marche très bien si tu es hyper concentré sur le même sujet tout le temps, hyper focalisé. Mais je trouve que quand même, moi j'ai envie de changer de rythme, de parler de plusieurs choses, des expériences, oui. Tu vois.
T'es pas juste une personne unique, quoi. T'as plein de facettes.
Exactement, ouais.
Et de ce fait-là, tu te sens un peu enfermé dans la niche que t'as creusée, c'est ça que tu veux dire ?
Je sais pas, non. En fait, je pense que j'arrive quand même à toucher pas mal de sujets différents et du coup, encore une fois, j'ai eu la chance, je pense. Et en plus, c'est une question de stratégie. Enfin, pour pas mal de gens, c'est un business. Et du coup, dans ce cadre-là, c'est plus facile, je pense, ou plus compréhensible de rester sur un seul thème et vraiment... creuser là-dedans, alors que pour moi, franchement, c'est un moyen pour m'exprimer et ouais. Je suis un artiste, tu vois. et du coup, je l'utilise en tant que, encore une fois, un moyen pour m'exprimer, et du coup, c'est pour ça que ça est devenu beaucoup plus compliqué pour moi personnellement.
Comment ça?
Enfin, de garder ce même focus, ah oui. Tu vois, tout le temps.
Okay.
Tout simplement parce que, en fait, ça ne m'intéresse plus de faire ce que je faisais il y a 2 ans.
Ce qui est très compréhensible.
Voilà, on change, on grandit, non ? Donc,
Ok. Je te propose de revenir au fil plus habituel de ce podcast, mais en vrai, c'était très intéressant. Mais tu sais, je vais un peu avec le flow, quoi, tu vois, ça dépend. On a commencé à parler de ça, on va parler de ça. Puis après, les gens, peut-être qu'ils sont tous barrés et qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'on parle de ton histoire. Donc, on va parler de ton histoire.
Ouais, c'est vrai.
La première question que je pose à tous mes invités, c'est, en fait, à quoi ressemblait Nathan quand il avait 7-8 ans?
Ouais, c'est une très bonne question.
T'as écouté, ouais.
Ouais, je connais cette question. C'est une très bonne. Enfin, je peux te poser une question vite fait. Ouais. D'où ça vient, en fait? Pourquoi tu poses cette question-là?
Ah, alors à ton avis, je te pose en retour. Pourquoi je pose cette question-là, tu penses?
Bah, je pense que c'est un bon moyen pour commencer la démarche. Mmh. Voilà. Enfin, c'est le début vraiment de. Mmh. Où on commence à voir les signes de. Alors, ce qui va venir, non?
Peut-être je file trop mes tips, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne façon de commencer une interview. Non seulement pour, effectivement. Se dire, ok, d'où tu viens exactement, mais en fait, ça met aussi les gens, les invités, dans une perspective de se remettre en souvenir. Et en fait, tu sais, souvent, je vois les gens qui commencent à faire, ah, ok, et tu vois qu'ils lèvent les yeux au ciel, ils sont en train d'aller chercher dans leur cerveau. Et en fait, je cherche aussi à faire ça, à les inciter à aller peut-être raconter des histoires qu'ils n'ont pas encore racontées dans leur bio officiel ou dans leur... parce que ça ne m'intéresse pas vraiment qu'ils me racontent leur bio officiel, tu vois, même si c'est important, mais je voudrais aller chercher, toujours creuser un peu plus loin. Et en fait, le fait de démarrer par cette question-là, ça incite un peu mes invités à se dire, ok, c'est pas une question que j'ai l'habitude qu'on me pose, donc ok, je vais aller chercher un peu plus loin. Et toi, t'es un peu préparé de cette là?
Moi, je pense que je pense assez souvent à mon enfance.
Okay.
C'est vraiment un but pour moi, toujours revenir à... En fait, à chaque fois que je me sens perdu dans un projet ou dans un certain parcours, disons, je reviens à cette question-là de pourquoi est-ce que j'ai commencé, enfin, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, tu vois. Et du coup, assez souvent, ça revient à ça remonte à l'enfance, quoi.
Ok. Donc, mais pourquoi en particulier à ce moment-là à revenir à l'enfance?
Je pense qu'on est plus libre quand on est enfant. Enfin, c'est vraiment. Franchement, je prends même un côté spirituel. Je pense qu'on est plus près de Dieu quand on est né. Et vraiment, ça. Je pense que c'est pas qu'on le perd, mais du coup, en grandissant, on. Faut apprendre comment faire partie d'une société, d'être un humain, quoi. Enfin, je sais pas. Et du coup, je pense que c'est quand même. Pas un mauvais but, essayer toujours de revenir à cet état-là et de garder l'enfant. C'est un peu cliché, mais voilà.
Non, pas du tout. Non, c'est pas cliché. C'est marrant, je digresse encore un peu, mais c'est marrant que tu mentionnes Dieu parce que tu as fait une vidéo dédiée à ton rapport à Dieu que j'ai trouvé hyper intéressante.
Merci beaucoup.
C'est important pour toi la religion aujourd'hui, encore aujourd'hui ?
Alors. En fait, cette vidéo là, c'était pour donner une définition à Dieu pour moi personnellement qui n'est pas religieuse en fait.
Okay.
J'évite quand même de parler trop de religion, tout simplement parce que j'aimerais bien plus m'en renseigner et okay. de lire les textes, mais il me faut plus de temps, quoi. Et du coup oui. Mais de toute façon j'ai grandi dans une maison pas religieuse et mais quand même je trouve que la spiritualité est très très importante pour moi.
Okay.
Et donc pour répondre à la question ouais. de qui j'étais, je pense que j'avais beaucoup d'énergie. Plein de curiosité. J'avais la chance d'avoir une mère, des parents en fait, qui faisaient énormément d'efforts pour s'adapter à moi et de ne pas écraser un peu cet esprit. Je pense que j'étais frustré aussi parce que j'avais déjà envie de m'exprimer, mais j'avais pas du tout les outils par exemple, pour trouver les mots, pour écrire, pour. Créer des choses visuelles. Enfin, ouais. Franchement, j'avais quand t'as 7-8 ans, enfin, t'as pas encore ces choses-là. Et cette frustration a duré pendant au moins une décennie.
Ok.
Avant que j'ai cette. J'ai commencé à avoir ces outils-là
okay.
qui me permettaient de m'exprimer un peu plus.
Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas trouvé des outils plus tôt? Parce qu'en fait, alors à 7-8 ans, je comprends que tu puisses te dire, bon, bah, j'apprends tout juste à lire, à écrire, etc.
Tout à fait.
Mais vers 12, 13, 14 ans...
Alors, j'avais un blog, quand j'avais, 12, hein, je pense que ça a commencé à 12, 13 ans, un truc comme ça.
Alors aujourd'hui, pour resituer, tu as 22. Hein.
22, j'aurai 23 ans dans 2 semaines.
Ok. Donc c'était quoi? C'était fin des... 12 ans, c'était de 2010, quoi, c'est ça?
Voilà, plus ou moins 2010, 2011. J'avais un blog. Et pour moi, c'était un des premiers projets, entre guillemets, qui me permettait de m'entraîner un petit peu. Mais pour vraiment trouver sa voie dans la voie artistique, dans la voie créative, ça prend du temps. Enfin, vraiment, il fallait que je fasse des efforts... pour publier assez régulièrement, de chercher vraiment ce que je voulais dire. Et toute cette étape-là peut durer des années. Et c'est vraiment frustrant. Il y a une citation très connue de Ira Glass, que peut-être, je ne sais pas si tu connais. C'est, en plus, c'est, ça a à voir avec ce qu'on fait là, parce okay. que c'est un, lui, c'est le, comment dire, le host d'un podcast qui s'appelle This American Life.
Ok, oui, je connais.
Et du coup, je connais pas la citation par cœur parce que c'est assez longue, mais c'est absolument génial sur ce processus-là, en fait, l'écart en fait qui existe entre ton goût, tes goûts, ce que tu veux faire, ce que tu sais existe à l'intérieur de toi-même, et ce que tu arrives à faire, en fait. Cet écart qui est extrêmement frustrant, tu vois, mais c'est, en fait, il parle du fait que il n'y a pas un raccourci.
Ouais.
Il faut tout simplement faire le travail, quoi.
Faut galérer.
Et ça, et voilà, c'est ça. Et transpirer, quoi. Ouais. Et galérer, ça, c'est ouais. le bon mot. Et ça peut durer des années. Et voilà, quoi. Ça fait partie tout simplement du processus. Faut l'accepter.
Tu me l'enverras la...
Absolument, ouais, avec
quote,
plaisir.
Je la mettrai dans les notes.
Tout à fait, ouais.
Ok. Ok, donc en fait, tu commences à avoir ton blog, là, c'est ça, et tu fais ce travail-là sur toi. Un des trucs qu'on n'a pas mentionné, c'est que tu viens d'une famille qui est... tes parents sont immigrés, qui viennent, ouais. viennent d'Argentine, c'est ça? Et toi, t'as grandi aux États-Unis.
Voilà, okay. je suis grandi aux États-Unis,
okay.
Dans une maison pas très américaine, quoi.
Okay.
Bah, si, parce que, enfin, déjà, faut clarifier un petit peu ce terme, parce qu'en fait, mes parents sont américains aussi dans le sens qu'ils viennent des continents américains.
Oui.
Tu vois et donc, il faut. Moi, je pense qu'il faut vraiment clarifier ça.
Amérique
parce que
du
je
Nord,
trouve que,
Amérique du Sud.
Quand même. Parce
oui,
bien
que, sûr, t'as raison, c'est pas du tout la même culture, quoi. Tu vois, c'est comme si tu disais voilà. tous les Européens sont les mêmes, quoi. Tu vois, c'est...
Donc, mais j'aime pas non plus le terme états-unisien, enfin, je sais pas comment dire.
États-unien, c'est ça.
Voilà, voilà. Pour parler uniquement du pays des États-Unis. Mais en tout cas, j'ai.
Pourquoi tu l'aimes pas?
Déjà c'est difficile à dire
ouais.
et ça s'utilise pas très très souvent donc non. je trouve que je sais pas c'est faut en fait il faut toujours expliquer à chaque fois mais c'est vrai que moi je pense qu'il faut trouver ou bien peut-être américain des États-Unis voilà c'est
ouais.
ça faut dire ça en tout cas voilà quoi j'ai grandi dans une maison qui était pas américaine des États-Unis et pas non plus trop argentine. Genre, mes parents n'étaient jamais des gens, comment dire, hyper fiers
okay.
de faire partie d'un certain pays, quoi.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Ensuite, ton adolescence, tu dis justement que tu as créé ce blog, mais que tu étais un peu frustré, c'est ça? C'est quoi le déclic?
Eh bien, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un moment... où ça a commencé à marcher tout d'un coup, genre très très bien. Je trouve que... En fait, j'ai fait un séjour de 3 mois en Argentine quand j'ai fêté mes 19 ans là-bas. Donc il y a 3 ans. Je suis rentré aux États-Unis après. Déjà, c'était une période un peu difficile parce que j'étais chez une famille d'accueil où ça allait pas très bien. Histoire d'avoir une mauvaise communication, des attentes, je pense, qui... Enfin, voilà quoi, c'était compliqué.
Tu veux dire aux États-Unis, c'est ça?
Non, en Argentine.
En Argentine, d'accord.
Et du coup, tout ça, c'était compliqué. Je suis rentré aux États-Unis, je me suis dit... Ça, c'était en fait 2 ans... Ok, attends, je remonte.
Ouais, ouais, j'allais remonter pour toi, parce que
j'ai
ta
commencé...
chaîne, tu l'as créée en...
Voilà, en 2015.
Voilà.
J'ai commencé à faire des vidéos pour la première fois de ma vie, en 2015... J'avais 17 ans et pendant 2 ans, j'ai publié des vidéos assez régulièrement. J'ai fait peut-être au moins une cinquantaine de vidéos en anglais. Puis j'ai commencé en fait 2 autres chaînes. Donc j'en avais 3. Une chaîne en français qui s'appelait Dans mes binocles et une chaîne qui s'appelait Me llamo Nathan, qui était en espagnol aussi.
Okay.
Parce que j'aime beaucoup les langues étrangères. Donc pendant 2 ans, je gérais d'abord cette première chaîne okay. et puis les 3. Et puis j'ai fait une espèce de, pas burn-out, mais je me suis dit, je vais nulle part en fait avec ce que je fais là. C'était pas, je trouvais que, encore une fois, cet écart entre ce que j'avais en tête, ce que je voulais créer de mon esprit et ce que j'arrivais à créer. Parce que je connaissais pas du tout, par exemple, l'aspect technique de réaliser des vidéos. Et bien, par exemple, raconter une histoire, enfin tout ça. Quand je suis entré en 2017, déjà ça allait pas très très bien parce que ça s'est.
En 2019,
quand j'avais 19 ans en fait.
Quand t'avais 19 ans, d'accord.
Voilà. Donc, je suis rentré aux États-Unis. Je me suis dit, waouh, ça c'est pas hyper bien passé. Et du coup, en plus, je suis pas fier de ce que j'ai fait en ce moment. Donc, je me suis vraiment lancé dans le monde du cinéma. Où, au lieu de faire des études, en fait, dans le monde du cinéma, je bossais tout simplement avec des boîtes de production. J'observais, je posais des questions. J'apprenais énormément sur tout ça. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux à ce qui est possible, en fait, dans ce format-là, dans le monde de vidéo. Et en même temps, je faisais des courts-métrages, tout petits courts-métrages, moi-même. Et,
mais tu as décidé sciemment de ne pas aller à l'université.
Oui, oui, oui. Et en fait, je pense
fait une vidéo, je dis ça parce que tu en as fait une vidéo. Ouais.
Je pense que cette décision-là était beaucoup plus facile pour moi parce que ça coûte tellement cher que je me suis dit ça n'a aucun sens. Enfin, mais je veux pas endetter mes parents. Enfin, c'est vraiment horrible. Et moi non plus, je voulais pas être endetté quoi. Donc j'avais énormément de chance d'avoir des parents qui comprenaient la situation, qui me permettaient de rester quelque temps à la maison.
Ça coûte combien une année d'université basique aux États-Unis?
Moi, je viens de l'État d'Oregon, okay, juste au nord de la Californie, dans la côte ouest. Si, par exemple, je voulais aller à New York, comme pas mal de monde, aller à une grosse université, ça pourrait facilement coûter 50 000 balles, dollars, par an. Donc, eh bien, si tu veux être médecin, par exemple, ça c'est beaucoup plus que 4 ans.
Oui, donc c'est beaucoup d'argent, quoi.
C'est beaucoup d'argent. Et du coup, tu commences ta carrière déjà avec un énorme poids sur tes épaules. C'est compliqué, quoi. Donc, j'avais énormément de chance d'avoir des parents qui comprenaient un peu la situation, qui sont aussi des artistes.
Il faut quoi, tes parents?
Ma mère fait beaucoup de design. Elle avait une boutique de vêtements et de bijoux pour les femmes. Elle a fait en fait plein de choses. Elle est devenue photographe aussi. Et puis mon père aussi, il travaille un peu dans le monde. Il est plutôt producteur pour des animations, les choses comme ça. Mon frère aussi est artiste. Lui, il fait des animations en fait pour mes vidéos. Mais aussi pour plein d'autres gens. Voilà quoi. Donc, je suis rentré aux États-Unis 2017. Je me suis dit, ok, j'apprends comment bien faire des vidéos. Et là, à partir de là, ça a commencé à aller mieux pour moi parce que je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment une direction un peu plus claire. Et puis, mais quand même, cette étape-là a pris pas mal de temps parce que c'était pas avant la fin de 2018 que j'ai vraiment commencé à publier régulièrement sur ma chaîne. Et 4-5 mois plus tard, déjà quasiment 4 ans après avoir créé ma première chaîne, ça a commencé à vraiment marcher pour moi. Donc, processus long, quoi.
Qu'est-ce qui te donne envie à un moment donné de partir dans le style de, enfin, dans le développement personnel?
Eh bien, je pense que c'était ma propre réponse à un monde assez incertain, c'était comme ça.
Oui.
Le 21e siècle, qui, avec chaque année qui passe, devient de plus en plus chaotique, je trouve. Et en fait, ça ne sert à rien, je trouve, à essayer de changer les autres et le monde entier, alors que tu fais pas des efforts sur toi-même, tu vois. Donc, je pense que ça tout commence avec toi, quoi. Et donc, du coup, voilà. Je cherche toujours des solutions entre guillemets, enfin des choses qui marchent pour moi, qui améliorent ma vie ou qui m'aident à avoir un peu plus de clarté sur ce que je veux faire. Sur la vie de manière générale. En fait, la vérité, c'est pas vraiment un truc qui est noir et blanc, quoi, tu vois. Et en fait, je pars du principe qu'on a tous un petit morceau de la vérité, disons, et que c'est vraiment une question d'écouter, de tester les choses, de faire des expériences. Et petit à petit, tu accumules un petit peu à travers ces expériences-là, quoi. Enfin, je sais pas.
Ok. Qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui fait que ta chaîne, tu disais que t'as mis un, t'as eu un long processus avant de commencer à booster. C'est quoi le truc? Est-ce qu'il y a eu un turning point à un moment donné qui t'a fait dire, ok, en fait, ma chaîne est vraiment en train de prendre de l'ampleur et ça peut devenir un vrai business, un vrai job pour moi, quoi.
Tout à fait. Bah, du coup, ok, je te donne un peu de contexte.
Ouais.
En 2015, 2016, j'ai fait 2 ou 3 vidéos en français, en fait, sur ma chaîne principale, ok? Et ça a marché, en fait. C'était 5 choses. En fait, c'est des vidéos qui sont privatisées maintenant parce que okay. ça me fout le comment dire, le cringe. Ça me fait cringer, quoi.
Ok.
Ça se dit en français?
Ouais, ça me fait cringer, ouais. On dit.
C'est horrible. Je trouve que c'est vraiment horrible.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, c'était vraiment forcé, quoi. Enfin, j'étais pas encore à l'aise devant la caméra. Okay. Voilà,
j'ai,
quoi.
J'ai un vrai truc avec ça, tu sais. Je regrette un peu que les youtubeurs qui deviennent. Alors, je comprends, t'as raison, hein, tu vois, mais je regrette un peu que les youtubeurs qui deviennent costauds, tu vois, qui deviennent grands, qui deviennent. Finissent par enlever du public, en fait, leurs premiers tests, leurs essais, etc. Parce que ça fausse un peu le chemin. Et c'est merci d'en parler, en fait, parce que c'est, pour moi, ta vérité, elle est là, tu vois, de ça.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, j'ai déprivatisé pas mal de vidéos du début.
Justement, dans cette envie-là, c'est ça, de montrer.
Un petit peu. Quelqu'un a fait une vidéo sur moi, une analyse, disons. Okay. Et du coup, ça m'a fait penser, ok, ça serait pas mal de déprivatiser certaines vidéos.
Et elle disait quoi, cette personne?
C'était juste une analyse. C'est une analyse.
Une analyse.
Ah, voilà. Ah, mince.
Ouais, mais c'est piégeux, tu sais.
Une analyse sur ma démarche, en fait. Et je me suis dit, il y a quand même des trous dans cette histoire. Et c'est drôle. Je reçois des commentaires plutôt sympas maintenant, des gens qui remontent, en fait, pour regarder les premières vidéos. Mais il y a quand même des vidéos que je trouve. Je sais pas. C'est compliqué à expliquer, mais je trouve que déjà avec les algorithmes, je veux pas que des vidéos vraiment bof soient recommandées. Tu vois, c'est compétitif, hein. C'est il faut penser à tout, hein. Et du coup, je sais pas. Il y a aussi parfois je partageais des avis dont je crois plus trop.
Ok.
Ça fait partie aussi du processus de chercher ta voix, tu vois. Mais du coup, j'avais fait plusieurs vidéos en français. Et donc, du coup, ces vidéos ont bien marché parce que c'est un étranger qui parle d'un autre pays. C'est forcément intéressant. Mmh. Et du coup, ça m'a donné. Je suis arrivé à 25 000 abonnés. Jusqu'en 2018. Donc en quasiment 4 ans, 3 ans et demi, j'avais accumulé 25 000 abonnés, ce qui n'est pas rien, mais c'était quasiment que des Français. Donc quand j'essayais de publier des choses en anglais, je perdais en fait des abonnés à chaque fois. Vous parlez pas trop l'anglais. Non, je rigole. En fait, je trouve que franchement, le niveau d'anglais augmente vachement ici en France.
Chez les plus jeunes générations, je pense. Ouais. Et surtout, je pense que tu es aussi dans un microcosme parisien.
Ouais, bah c'est possible, mais...
Je pense que si tu vas plus en province, c'est plus compliqué l'anglais.
Ouais. Bah du coup, moi, il faut que je me bats parfois pour vraiment... Enfin, je pose toujours la question, est-ce que ce serait possible de parler français avec vous? Parce que dès que je dis que je suis américain, bim, les gens veulent pratiquer l'anglais avec moi. Et du coup, je dis, c'est pas juste, on est en France quand même. Tu peux pratiquer l'anglais n'importe où ailleurs.
Va aux États-Unis, on peut plus aller aux États-Unis.
Ouais, non, mais n'importe où ailleurs. Tu vois, genre, dès que tu fais un voyage où t'es dans un pays où tu peux pas parler l'anglais, ou le français plutôt, c'est l'anglais, quoi.
Ouais.
Donc, en tout cas, j'avais 25 000 abonnés et j'ai publié des vidéos à la fin de 2018, toutes les semaines. Et donc, c'était hyper frustrant de perdre, je sais pas, une cinquantaine d'abonnés à chaque fois, alors que j'ai vraiment trimé pour faire quelque chose qui me correspond, enfin, dont j'étais fier. Donc, du coup, ça disait, je pense, aux algorithmes que cette chaîne, c'est de la... Je sais pas si je peux utiliser des gros mots.
Dire des gros mots.
La grosse merde. Enfin, c'était vraiment... On va ignorer à fond cette chaîne. Et du coup, enfin, j'ai fait une vidéo sur prendre des douches froides.
Ouais.
Donc, j'ai finalement mis une miniature avec moi, avec la tête choquée. Et,
tu vois. T'as joué le jeu de YouTube, en fait.
Un petit peu. Il faut, il le faut. Mm. Et du coup, ça a très bien marché. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était que...
Alors, t'as non seulement, juste pour préciser, mais ouais. ce titre-là, t'as aussi joué le jeu du titre. Parce que t'as joué à la fois l'expérience... de se dire, OK, voilà. Je vais tester 30 jours de prendre des douches froides.
Ouais.
Et tu as joué le jeu du titre aussi un peu, je sais plus
exactement. Not what I was expecting.
Voilà.
Ce n'était pas ce que j'attendais. Quoi.
Voilà. À l'époque, en fait, c'était le genre de titre qu'on retrouvait un peu partout sur, ouais. sur YouTube. Un peu moins maintenant, mais...
Voilà.
OK.
Et je pense qu'il faut jouer le jeu. Par contre, j'avais vraiment fait l'expérience, quoi. Enfin, c'était pas...
Oui.
Et donc, ça a très bien marché et ça a déclenché en fait la, je sais pas, une dizaine d'autres vidéos que j'avais publiées. Et donc, tout d'un coup, dans le mois d'avril de l'année dernière, j'ai eu un gros boom en fait pour ma chaîne et ça a vraiment commencé à marcher. Et en fait, tout ça s'est passé au Mexique. J'avais fait des économies, pas grand chose, mais je me suis dit, bon, ça y est, je me lance quand même. Et pendant quelques mois au Mexique, je gagnais pas de l'argent en fait, ça marchait pas. Donc j'étais pas encore dans la zone rouge, mais je me suis dit, j'ai un timeline en fait, j'ai pas une quantité de temps illimitée pour que ça commence à marcher quoi. Donc c'était un risque que j'ai pris, mais j'avais pas mal préparé avant.
Juste, pourquoi tu t'es retrouvé à Mexico City?
Alors, j'aime beaucoup le monde hispanophone. Mm-hmm. J'ai fait vraiment énormément de voyages en Amérique latine et j'ai beaucoup aimé l'énergie du pays et de Mexico. Parce que c'est, je trouve que il y a quasiment moins de règles, moins de structures. Et donc, du coup, je trouvais qu'il y avait carrément beaucoup plus de créativité dans l'air, quoi, dans l'énergie de l'endroit. Et aussi, c'était moins cher. Donc, je me suis dit, avec mes économies, ça va durer plus longtemps ici. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas aller à New York ou Los Angeles. J'aurai 2 semaines et puis, et puis j'aurai plus rien. Quoi. Ouais. Donc, ça met encore plus de pression. Et encore une fois, je le dis et je pense que c'est vraiment important de le répéter.
Mais tu voulais... Ouais, excuse-moi, vas-y.
Je me considère assez privilégié d'avoir pu venir d'un pays où je gagnais des dollars et qui me permettait d'avoir plus de temps dans un autre pays, quoi. Donc, je jouais quand même sur mes privilèges et j'en suis conscient.
Ok. Et tu voulais pas rester vivre chez tes parents dans l'Oregon ?
Non, okay. non. Il est arrivé le moment pour partir et j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Enfin,
ok.
Voilà.
Parce que t'es encore jeune, tu vois, même encore aujourd'hui. Non, mais c'est vrai.
Tu veux dire, je pourrais encore vivre chez mes parents? Je pense pas. Je pense que la culture aux États-Unis, c'est pas exactement comme en Europe,
okay.
pas comme en France. Assez souvent, à 18, 19 ans, quand tu pars pour l'université, ça y est, c'est fini. Hein. Tu reviens plus trop à la maison. Ça commence à changer. Mais même, c'est une question d'énergie, quoi. Enfin, okay. J'ai une grosse énergie et pour que ça aille mieux avec mon père, avec mes parents, c'est tout simplement mieux d'avoir nos propres espaces.
Ok.
Et voilà quoi.
D'accord. Parle-moi un peu de ton projet de venir vivre en Europe. Parce que c'est une vraie décision consciente de ta part. Hein.
Tout à fait, ouais. Je me suis compliqué la vie, comme pas possible. Eh bien, après le Mexique, je suis venu en Italie pendant quelques mois. Et je me suis dit, waouh, ça me manquait en fait. Parce que j'ai vécu en Europe pour la première fois quand j'avais 16 ans en fait. L'année avant de commencer ma chaîne sur YouTube, c'était au lycée, un échange.
Ok.
À la campagne, en fait. Donc.
En Italie, donc ?
Non, non, en France.
En France ?
Ah,
en
France ? Pour ça que je peux parler le français. Voilà. En fait, c'est un mélange horrible. C'est mon histoire. Donc, du coup, okay. si les gens qui écoutent ce podcast n'arrivent pas à suivre.
Mais je pensais que tu t'étais pris d'amour, tu vois, pour le français et que tu t'étais dit, bah, je vais l'apprendre tout seul, tu vois. C'est pour ça que.
Je l'ai appris au lycée. C'était
où alors?
Tu vois où c'est, Cholet?
Oui.
Voilà.
C'est là-bas?
Dans le Pays de la Loire. Ouais. Et bien. Ça
a dû changer un peu.
Ça s'est hyper bien passé. Mmh. J'avais l'impression d'être dans un film français, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, j'étais en extase,
le
franchement.
Le béret et la baguette.
Et il y avait pas des gens qui parlaient l'anglais. C'était formidable. Et en plus, c'était un défi. Et j'ai cherché un défi parce que au lycée américain, je trouvais que c'était pas stimulant, en fait.
Okay.
Je trouvais que ce que j'apprenais ne servait à rien du tout. Ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et je pense que ça fait partie des raisons, en fait, pourquoi ça s'est aussi bien passé en France. J'avais ce défi, en plus de devoir apprendre une nouvelle langue et de percer la bulle, en fait, du monde francophone. Donc cette année-là m'a changé la vie.
Okay.
J'avais des familles d'accueil adorables. Je suis toujours en contact avec eux. C'est vraiment de la famille pour moi maintenant.
Okay.
Et c'est un peu pour ça que j'ai gardé des aussi bons souvenirs de l'Europe. C'est de là, je pense, qu'il est né mon amour, ou il est plutôt rené mon amour des langues étrangères. Et l'Europe, pour moi, c'est beaucoup plus divertissant parce qu'aux États-Unis, les distances sont beaucoup plus grandes. Je sais pas, c'est pas nouveau et excitant là-bas pour moi parce que je le connais, voilà.
Tu sais que vu d'ici, les États-Unis, il y a un peu un côté, c'est très glamour, quoi, tu vois. Alors peut-être un peu moins ces dernières années, notamment avec Trump. Et
j'allais le dire,
quoi, tu vois, ouais. C'est que ça a été un peu écorché par ce truc de ok, les gens de ce pays ont quand même voté pour ce zinzin, quoi. Mais bon, c'est intéressant, en fait, d'avoir ton point de vue américain sur
l'Europe. Je sais pas, je trouve que quand tu vis, quand tu grandis dans la bulle énorme des États-Unis, tu perds un peu de perspective par rapport au monde entier, de l'étranger. Mmh. Et je trouve que ça me fait du bien, en fait, de sortir de cette bulle et de vivre ailleurs. Donc, voilà quoi.
Donc, retour à ton voyage en Italie. Ça se passe très bien pour toi.
Ça se passe très bien, mais je me suis dit, je suis limité quand même par des visas qui durent quelques mois. Mmh. Donc, je suis entré aux États-Unis pour faire le processus d'avoir un visa qui me permettait de rester en Europe plus longtemps. En même temps, je suis dans le processus d'avoir la citoyenneté portugaise. Qui me permettrait de rester possiblement à jamais en Europe, tu vois. Et voilà quoi, je suis bien ici. Je trouve que la mentalité ici correspond beaucoup plus à comment moi je vois le monde. Je sais pas, en fait, je trouve que il va me falloir plus de temps ici pour développer un avis plus nuancé.
Ouais.
Parce que je pense que je suis quand même encore un étranger qui arrive ici, qui aime beaucoup la culture française. Y a des gros problèmes ici aussi, comme partout.
Bah oui.
Mais pour l'instant, j'essaie de profiter de cette lune de miel.
Okay.
Ou cette étape de lune de miel, plutôt.
Ouais. Parce que, donc, tu parlais de... Donc, t'es rentré en Italie. Enfin, après l'Italie, t'es rentré en... aux US, c'est ça, pour récupérer ton visa.
Voilà,
et là, t'es arrivé en France au mois de février, c'est ça?
Voilà, juste pile poil avant le confinement, quoi. Donc, je le voyais pas venir, en fait. Je le prenais pas du tout au sérieux.
Je pense comme tout le monde. Hein,
je sais pas, ouais.
Il y a peu de gens qui ont pris depuis le mois de décembre où le virus est arrivé en Chine jusqu'à, je pense, une semaine ou 15 jours avant le confinement. Quoi.
Et ça m'a frappé, émotionnellement parlant, comme pas possible. Enfin, ouais, je sais pas, c'était vraiment dur pour moi d'être tout d'un coup dans un pays étranger. Enfin, c'est un pays que je connais plus que d'autres, mais quand même. Tout seul, loin de ma famille, vraiment on ne sait pas ce qui se passe. Il y avait pas mal d'hystérie et en fait je me suis rendu compte que je suis arrivé avec certaines attentes. J'avais envie de rencontrer du monde, de faire des potes. J'ai beaucoup aimé les soirées françaises que j'avais fait dans le passé. Je suis pas un grand fêtard, ça se dit comme ça.
Oui.
Mais quand même, ça fait du bien de sortir de temps en temps. Et tout d'un coup, ça n'est plus possible. C'est même c'est la galère en fait de sortir. Il y a de la tension, tout ça. Donc ça m'a fait me rendre compte que il fallait changer un peu de priorité dans ma vie. Et du coup, je trouve que je suis quand même en transition là, de ne plus être aussi concentré sur ce que je fais, genre le contenu que je crée en ce moment en ligne. Et je suis vraiment... J'essaye de trouver un meilleur équilibre pour que je puisse continuer à faire ce que je fais au long terme, quoi.
Ok. Dans quel sens un meilleur équilibre alors ?
Eh bien, je pense qu'il va falloir ralentir un peu le rythme de la vitesse à laquelle je publie les vidéos, par exemple.
Ok.
Varier les choses un peu plus, faire d'autres projets. J'ai décidé de rester à Paris, en France, pour plus longtemps.
Ok.
Genre, c'est pas un truc de 3 mois ou 6 mois, parce que comme ça, je peux créer une communauté, quoi, un sentiment d'appartenance.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eh bien, voilà quoi. Ouais, je trouve que c'est des choses qui vont prendre énormément de temps. Mais je suis jeune, donc j'ai le temps.
Alors, j'ai plein de choses par rapport à ce que tu viens de dire sur lesquelles rebondir.
Vas-y, mais... c'est le bazar cette histoire.
Non, mais c'est pas le bazar du tout. Non, pas du tout. C'est juste.
Mais moi, je sais pas ce que je fais.
Comment ça?
Je sais pas. C'est en fait, je me surprends assez souvent. Je trouve que c'est ouf à quel point ma vision des choses, du monde, a changé même cette année. Je pensais que j'avais déjà trouvé pas mal de réponses à mes questions, tu vois, l'année dernière. Et non, eh bien non. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qui dure toute la vie.
Oui.
tu peux le confirmer ?
Oui. Voilà. Alors, j'ai 20 ans de plus que toi. Clairement, ça dure toute la vie. En fait, l'un des trucs qui me bluffe, et notamment dans tout ce que tu peux poster comme vidéo, on a très peu parlé de ce que tu fais finalement dans ton contenu.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais je vais mettre des liens vers notamment les vidéos qui m'ont marqué de toi, tu vois, vers ta chaîne, etc. Mais je trouve que t'as développé un contenu qui est très tourné autour de tes expérimentations à toi. Alors certes, t'as l'aspect douche froide, etc., qui est un peu le côté... sensationnel, on va dire, de ouais. YouTube. Hein.
Ouais.
Dis-moi si je me trompe. Mais...
Et j'assume en fait, parce que ça fait partie de jouer le jeu. Et je trouve que si tu fais pas un peu de ça, c'est quand même extrêmement difficile de percer la bulle. Hein. C'est vraiment une économie d'attention.
Mais exactement. Et t'as des vidéos plus lentes, que j'appellerais peut-être plus lentes, tu vois, où tu parles beaucoup de... des leçons que tu as pu tirer, tu parles des choses que tu as apprises, tu parles de philosophie, tu parles de notamment tu parles de stoïcisme, tu vois, de ce que ça t'a appris de découvrir en fait la philosophie stoïcienne. Et je trouve ça assez fou avec le recul, que je sais pas où t'as appris tout ça et tu vas me le dire après, mais que à 22, bientôt 23 ans, t'es déjà tous ces outils-là pour toi. Moi, à 22 ou 23 ans, j'étais où ? Je découvrais, enfin, Internet, c'était tout juste, ça démarrait, quoi, tu vois ? Et toi, j'imagine cette possibilité avec Internet de pouvoir avoir accès à tous ces outils. Où est-ce que tu as découvert, par exemple, le stoïcisme ?
Eh bien, je sais pas, je pense que l'Internet fait partie du truc. Mais je voulais, en fait, revenir un petit peu ouais. en arrière pour dire qu'il faut pas comparer non plus. Hein. Enfin, je pense qu'on va tous à nos propres rythmes, à nos propres vitesses. Oui. Et aussi, je trouve que c'est pas linéaire, c'est-à-dire que peut-être on a l'impression que j'avance très vite ou quoi que ce soit, mais que ça peut, je sais pas en fait, c'est je peux ensuite passer par une période ces prochaines 5-10 années d'être vraiment d'être stagné, voilà. On sait pas, tu vois. Ouais. Donc je pense que j'ai eu la chance, encore une fois, je donne pas mal de crédit, entre guillemets, à mes parents, de ne pas avoir imposé trop de pression. En fait, je vais en parler dans le futur, mais ouais. même l'espagnol, par exemple. Mes deux parents viennent de l'Argentine, comme on l'avait dit, ils parlent l'espagnol couramment. Le fait de grandir aux États-Unis fait que c'est plus facile en fait de parler l'anglais avec le travail, l'école, tout. Du coup, j'ai perdu la langue en fait à 4 ans, 5 ans. Et ça m'a énormément frustré plus tard parce que je me suis dit quand même j'aurais pu garder cette langue, c'est tellement utile. Mais non, en fait, ils voulaient pas forcer des choses sur moi. Et du coup, ça m'a donné en fait l'opportunité de redécouvrir cette langue plus tard. Je parlerai jamais parfaitement, mais je peux dire que c'est un truc qui n'était pas imposé sur moi. Et donc je pense que voilà, pour revenir à la question là, je pense que je sais pas, ils ont tout simplement ils m'ont donné la permission de suivre la curiosité et de poser des questions et de chercher quoi. Donc
Tu disais aussi, juste avant qu'on démarre, que t'avais la sensation que c'était dur pour toi de rentrer dans la communauté des youtubeurs français, si tu veux.
Ouais.
Je pense que l'une des raisons aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup en France de youtubeurs qui font du développement personnel. Et par exemple, moi je t'ai découvert parce que je suivais la chaîne de Matt Davila, tu vois. J'étais obligé, il fallait que je t'en parle, tu vois. Alors si vous le connaissez pas, c'est un réalisateur qui a notamment, moi que j'avais découvert par son documentaire Les Minimalistes, qui est sur Netflix. Et en fait j'avais découvert au fur et à mesure sa chaîne, et bien sûr en fait un jour par les vidéos, le système des vidéos de recommandation, il y a une de tes vidéos qui m'est apparue, et en fait j'ai cliqué, j'ai fait tiens c'est trop marrant, un Matt Davila un peu jeune, tu vois, et en plus avec ta touche à toi en fait très particulière, je trouve que t'as réussi à, je sais pas à quel point ce mec a joué pour toi, enfin est une inspiration pour toi.
Honnêtement,
ouais,
pas autant que ça.
Ok.
Un petit peu quand même.
En termes de réal notamment.
Ouais, mais je trouve mes inspirations vraiment ailleurs.
Okay.
Je trouve que, mais j'imagine que les algorithmes, grâce à lui et grâce à d'autres gens comme lui, m'ont aidé vachement. Donc voilà quoi. Mais en vrai, je regarde pas beaucoup de YouTube ou surtout YouTube développement personnel en fait.
Okay.
Parce que je veux pas répéter les mêmes choses. Okay. Je veux pas parler de la même manière. En fait. Je trouve de plus en plus, je m'éloigne un petit peu de cette catégorie même parce que je veux pas parler de la productivité. Je trouve que c'est assez superficiel comme discussion parce qu'en fait, faut parler des systèmes, faut parler de l'humanité en fait et pourquoi ça, à quoi est-ce que ça sert en fait la productivité. Ouais. C'est pas rien, c'est vraiment un truc qui fait partie de nos vies. Mais si on se pose jamais des questions de pourquoi ou jusqu'à où ou enfin des choses comme ça, je trouve que c'est inutile.
D'accord.
Donc voilà quoi, mais je pense que j'ai vas-y continue.
Non, je te laisse.
En fait je me suis perdu là.
Non mais je voulais te parler un petit peu du fait qu'il y ait peu de il n'y a plus de youtubeurs français en fait qui fassent un peu l'équivalent de ce que tu fais et l'équivalent de ce que tu fais. Alors j'ai bien compris que, comment dire, quand je te disais que pour moi t'y apportes ta touche en fait, c'est que justement t'essaies d'y amener tes propres questions personnelles d'un gars qui a 22 ans et qui est effectivement dans ce truc, dans ce monde actuel où on sent très bien que ce qui se passe dans le monde influence ta création au quotidien, quoi. Tu vois, notamment l'une de tes dernières vidéos où tu dis, je sais pas cette année, j'arrive plus à rien faire, en fait. Tu le dis très clairement, quoi.
Ouais, ouais, parce que, voilà, quoi, j'ai la chance de mener une vie très chanceuse, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que j'aime bien ma vie, en fait, c'est cool, mais j'essaie aussi de faire des efforts pour ne pas faire passer une image carrément impossible, enfin, qui correspond pas du tout à la réalité, tu vois. Alors que, voilà, je me remets assez souvent en question, j'ai des doutes comme tout le monde, j'ai des peurs, j'ai des phobies, je sais pas, plein de choses. Et donc, c'est important d'en parler. Et je trouve que, voilà, c'est facile de se perdre un peu dans le, quand tu fais des vidéos dans le développement personnel.
Ouais.
De se perdre un peu dans l'aspiration. Genre, comment être plus organisé, plus productif, plus créatif, plus concentré, enfin, toutes les choses comme ça. Alors que, je sais pas si c'est un truc qui correspond exactement avec, encore une fois, l'humanité. Enfin, on est capable des choses comme ça, mais aussi il faut accepter l'autre côté aussi, le chaos de temps en temps.
Et comment tu fais toi pour l'accepter, le chaos ?
Eh bien, c'est tout un processus. Enfin, pour l'instant, je partage ce que je vis là, tu vois.
Okay.
Et je suis sur un chemin de. C'est un peu, encore une fois, cliché de le dire, mais c'est un peu acceptation, enfin, ça se dit pas comme ça, acceptation de moi-même.
Ouais, c'est voilà. Ça se dit comme ça.
Et où je suis, et qui je suis, et bien, assez souvent, c'est pas très clair. Mais, et en fait, c'est drôle, parce que j'imagine que si tu regardais tout ce que j'ai fait d'un coup, comme ça, tu dirais peut-être parfois que c'est limite. Je sais pas, contradictoire, parce que j'ai des moments où je suis vraiment d'un certain côté, tu vois, plus dans le ok, on va être discipliné, on va être focus, et puis aussi d'autres moments quand je suis lâche, je veux dire, enfin, ou bien j'ai un peu worn out, un peu fatigué, enfin, voilà quoi. Mais en fait, on est tous contradictoires, je trouve.
Bien sûr.
C'est ça le truc qui est compliqué. On est capable de des choses simultanément qui sont contradictoires, quoi. Enfin, je sais pas.
Voilà. L'un des trucs que tu me disais juste avant qu'on démarre l'interview, c'est que tu m'as dit, est-ce que tu as regardé le documentaire Netflix, The Social Dilemma?
Ouais.
Qui, alors en français, attends, ils ont trouvé le pire titre.
C'est pas tout simplement le dilemme social?
Non,
ça
non.
Serait déjà pas mal, hein.
Non,
le français, c'est sexy.
Ils trouvent toujours des trucs, c'est genre derrière nos écrans de fumée ou.
Non.
Si.
Mais ça se dit le dilemme social.
Oui, enfin en fait derrière nos écrans de fumée.
N'importe quoi.
Alors c'est marrant parce que je l'ai vu ce week-end et j'ai deux filles qui ont 14 et 12 ans.
Oh,
avec
d'accord.
Qui c'est une guerre infinie. Et en même temps, c'est moi qui leur ai acheté leur téléphone, si tu veux.
À quel âge ?
Trop tôt. Mais je ne le savais pas à l'époque. Tu vois. C'était juste... J'ai appris au fur et à mesure, en fait, que... Ok, elles sont vraiment... En fait, moi, à l'époque, on a été coupé. Mettez toujours des nouvelles piles dans vos... Même si vous pensez qu'il n'y a pas de problème.
Yes.
Donc, ouais, je te disais que mes filles... c'est un grand débat, le temps d'écran avec mes filles. Et notamment Instagram et TikTok.
Et TikTok, c'est vraiment l'application de l'enfer, je trouve.
Ouais, et en même temps, je me dis, peut-être tu dis ça et peut-être t'es déjà trop vieux.
Ouais, grave. Non, mais en plus, ouais.
Tu vois ce que je veux dire,
mais en fait, Instagram essaie de faire exactement la même chose.
Oui,
je trouve que Instagram, on peut dire facilement que Instagram, c'est aussi une application du diable. En fait, je trouve de manière générale, j'ai fait un accord avec le diable en faisant du contenu sur les réseaux sociaux. Vraiment. C'est juste tellement compliqué gérer cette espèce de responsabilité qui vient avec. Mm. Un truc que j'attendais pas du tout. Si tu me disais, t'auras telle quantité d'abonnés, tu dépasseras 1 million d'abonnés, je pense que j'aurais dit... J'ai du mal à y croire, tu vois.
Ouais, ouais.
Et comment tu fais, en fait? Je suis trop jeune pour le faire. Et si moi, je suis trop jeune, la majorité des gens qui publient des choses sur Internet, je trouve, sont trop jeunes. On est tous trop jeunes pour faire ce qu'on fait là. Et... Pardon, je t'ai coupé complètement là, mais je trouve que... Je sais pas, je trouve que... Forcément, je vais faire des erreurs... Je vais faire des choses dont je regretterai, je pense, dans le futur. Le problème, c'est que c'est tellement immédiat, tellement visible, public, et aussi en même temps détaché, parce qu'on n'est pas, on n'a pas la possibilité d'avoir des conversations tête à tête comme ça. C'est sur Internet, quoi. C'est des commentaires. Tu peux dire n'importe quoi. C'est de là, je pense, que vient la violence sur Internet.
C'est tu sens une forme de pression, toi, quand tu publies un truc?
Ouais, vachement, vachement. Je passe par des périodes où je trouve que j'arrive à mieux gérer les choses, et puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué, quoi. Enfin, même après 5 ans de publier des choses, je trouve que c'est compliqué de gérer mes propres attentes par rapport à ce que j'ai publié et la performance, entre guillemets, la quantité de vues, quantité de j'aime, quantité de commentaires. C'est vraiment, ça joue tellement sur ma psychologie que j'ai pas encore pris l'habitude, en fait. Et peut-être c'est parce que je suis un mec sensible et c'est juste que je le prends un peu plus au personnel que d'autres personnes, je sais pas. Mais je trouve quand même que j'ai pas encore trouvé un moyen pour bien gérer les choses au froid. Et du coup, tu parlais de tes filles, je peux même pas imaginer à cet âge-là.
Ouais, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué à gérer. Et pour revenir à ce documentaire, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est... Je trouve que ce docu que je vous invite toutes et tous à regarder vraiment parce que il est très. Je pense que c'est sans doute le meilleur truc que j'ai jamais vu où ils ont réussi à synthétiser de façon très pédagogue comment fonctionnent les réseaux sociaux, les effets que ça peut avoir sur toi, tout en y mettant. Alors, il y a un bout de fiction qui est vachement bien fait pour illustrer un petit peu ce que ça fait sur des jeunes, par exemple. Et il y a à la fois des interviews où ils ont réussi à regrouper un casting vraiment fou avec des gens qui ont vraiment fondé de à l'époque les systèmes. Il y a un mec qui a cofondé le bouton j'aime sur Facebook et qui vient redire à l'époque, nous, on pensait pas que ça amènerait ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. Je trouve que c'est vraiment très essentiel en fait de regarder ce documentaire. Et c'est marrant que tu m'en aies parlé spontanément parce que je me demandais un petit peu comment toi, de ton côté, tu l'avais vécu ce documentaire-là en tant que créateur contenu. Parce que moi, ça m'a donné envie juste de tout couper.
Ouais, et bien, c'est drôle parce que quand j'ai recommencé, j'avais fait une grosse pause en 2018. Et 17. Pendant cette période-là que je bossais dans le monde du cinéma, des vidéos, que j'apprenais en fait comment mieux réaliser les vidéos, les films, j'ai publié pas très souvent.
Tu veux dire de vidéos ?
De vidéos, voilà.
Ok.
Sur Internet, mais aussi, genre, je bossais sur des pubs et des documentaires, plein de choses. Donc j'avais pris cette grosse pause et en revenant, encore une fois, à la fin de 2018, quand j'ai commencé à publier régulièrement de nouveau, je me suis dit, je vois plein de choses sur Internet qui me semblent fausses. Moi, je vais ramener une voix authentique. Je vais parler de honnêtement, tu vois. Genre, je vais essayer de d'être plus honnête, en fait. Plus honnête avec mon public, avec les gens qui regardent mes vidéos. Et d'un côté, je peux dire, c'est un truc que je trouve que j'ai réussi. Je trouve que j'arrive à partager des trucs dont je suis pas forcément fier, d'être compétitif ou bien mes peurs ou bien les choses comme ça. Et je trouve que, ou bien le fait, enfin récemment, de publier la vidéo sur le fait que je suis pas très discipliné cette année. Je trouve que les événements qui se passent dans le monde entier et dans ma vie personnelle m'affectent. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer sur mes projets en ce moment. Donc, d'un côté, ça marche bien. Ça a bien marché, ça continue à bien marcher. D'un autre côté, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est impossible d'être 100% honnête. En fait, ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi ça? Parce que faut jouer le jeu en même temps, tu vois. Faut mettre des titres et des miniatures accrocheurs. Faut jouer le jeu, quoi. Et faut garder l'attention. Tu peux pas tout mettre parce que ce serait tellement ennuyant. Et si je parlais tout le temps de mes peurs et de mes doutes, et ce serait... mec, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, tu vois, genre, c'était pas bien, tu vois. Mais en fait, je pense que je suis normal. On passe tous par les choses comme ça, tu vois. C'est juste que c'est pas un truc que tu peux partager tout le temps. Tout le temps.
Ça serait un très bon sujet de vidéo, ça, tu sais.
Ah oui, oui. je veux bien plus en parler, c'est sûr. Mais même, juste pour trouver les bons mots pour aborder ce sujet-là, c'est compliqué. Et donc, du coup, je me suis dit quand même que l'honnêteté, la vérité, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à définir. Et comme je parlais avant, comme je disais, on a tous des petits bouts, en fait, des petits morceaux de ce qu'on pourrait appeler la vérité, tu vois. Mais même, je pense, si je ne me trompe pas, personne... Ça vient d'un mot en latin, persona ou un truc comme ça, qui veut dire masque, en fait. C'est un truc qui est passé par les réseaux, je pense, cette année, surtout d'accord. avec le fait qu'on porte des masques. Mais ça a du sens, hein. On crée tous des personas, enfin, des personnages. On fait tous des efforts pour, créer l'image qu'on présente au monde sur les réseaux sociaux, c'est sûr, mais aussi dans le monde réel, quoi. Enfin, sinon, pourquoi tu t'achètes certains vêtements et pas d'autres? Ou bien, pourquoi tu t'occupes de tes cheveux ou ta barbe ou quoi que ce soit, tu vois? Et ça va, quoi. Enfin, c'est OK de ne pas être... ça fait partie d'être humain, quoi. Je pense que c'est pas forcément... c'est pas honnête de dire que moi, je vais être 100% honnête, tu vois.
Je vois exactement.
Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai plus trop des réponses claires. Mais c'est vrai que ce documentaire m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à tout ça.
Mais tu disais que tu avais fait un pacte avec le diable, carrément.
Ouais, je pense.
OK. Mais c'est intéressant comme, tu vois, comme point de vue. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de créateurs de contenu, de youtubeurs, d'instagrammeurs qui aient ce discours-là aujourd'hui, qui puissent se dire, bah, en fait, moi, je gagne mon argent grâce à l'attention, comme tu dis, et qui est devenu... Bah, mais le documentaire en parle très bien, justement, de comment les réseaux sociaux vendent notre attention. Et c'est vrai que tu en fais partie, toi. Enfin, je regardais hier une de tes vidéos et c'est vrai que j'ai eu trois pubs, tu vois, en passant.
Voilà.
Mais en fait, bon, ça fait partie du jeu, quoi, tu vois.
Attends, trois pubs. Enfin, j'essaie quand même de limiter la quantité.
Non, mais c'était une vidéo d'un quart d'heure, tu vois. Donc, pour moi, ça marche bien, tu vois. C'est une vidéo toutes les 5 minutes. T'inquiète, hein, c'était pas pour te dire, hey, gagne de l'argent sur mon dos. Moi, ça me va très bien de.
En plus, ça paye. Ça, c'est qu'une petite partie de. Enfin, en fait, ça paye pas super, hyper
ça
bien, tu vois.
Ça paye pas du tout bien, même. Voilà. Ces dernières années, ça paye encore moins bien. Je sais pas trop. Parce que toi, t'es indexé, je pense, sur le YouTube US, à mon avis.
Ouais.
Qui, à mon avis, les prix des publicités sont un peu plus élevés qu'en France.
Un peu plus élevés, ouais.
Mais en France, c'est quasiment rien du tout. Ah non, mais si tu veux, parlons-en un petit peu de comment tu fais pour gagner ta vie. Je pense que l'une des grosses parties de tes revenus viennent des sponsors, c'est ça? De tes vidéos?
Bah, je vais essayer de garder le lien quand même entre cette discussion du diable. Et c'est vrai que j'ai fait des efforts pour uniquement travailler avec des marques qui correspondent à mes valeurs, entre guillemets, tu vois, genre des choses que j'utilise. Genre, j'utilise l'application Audible, par exemple, pour écouter les livres tous les jours. Tous les jours, j'adore cette application. J'adore consommer de l'information de cette manière-là. Donc, j'ai pas trop de problèmes en acceptant cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est, ça fait partie de Amazon. Et Amazon, je sais pas, c'est la consommation. Il joue sur la consommation sans cesse qu'on voit dans ce monde. J'utilise des produits d'Apple. Je gagne aussi avec des pubs de Google. Donc, il y a une espèce d'ironie que j'ai dit à chaque fois qui existe quand je me plains, en fait, ou quand je critique ces choses-là, alors que je fais complètement partie du système. Et puis, en plus, pour revenir aussi à la responsabilité, ça aussi, c'est difficile à gérer. Forcément, je vais faire mal aux gens. Enfin, forcément, il y aura des personnes qui seront offensées par ce que je dis. Ou bien d'autres gens qui diraient bah, « c'est impossible de mener la vie qu'il a ».
Tu peux pas contenter 100% de 1 200 000 abonnés. Je sais pas si tu as vu ce post de blog de Tim Ferriss, qui est un énorme blogueur, podcasteur. Jamais trop fait de vidéos YouTube, mais à la base...
Il en a fait, en fait.
Il en a fait il y a très longtemps, mais c'était plutôt sur, si je me trompe pas, sur des chaînes, carrément.
Lui. Non, il parlait en fait du stoïcisme, ça pourrait t'intéresser.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, il y a très longtemps pour le coup.
2-3 ans, ouais.
Ok.
Ouais.
Et il avait fait un post sur les leçons qu'il a apprises sur de la célébrité. Et avec son approche qui est toujours très mathématique, si tu veux, il expliquait que c'était impossible de ne pas passer face à des. Comment dire? De ne pas se retrouver face à des gens qui étaient psychiatriquement déséquilibrés, si tu veux, vu la masse d'audience à laquelle il s'adresse, et notamment d'avoir des gens qui l'attendaient juste en face de chez lui, qui avaient trouvé son adresse alors que son adresse n'est pas publique, etc. Et j'ai trouvé que, je ne sais pas si tu l'as lu ce post, il est hyper intéressant. J'ai trouvé que ce post était très intéressant sur les effets négatifs en fait de la célébrité, tu vois, parce qu'en plus il n'est pas vraiment célèbre, hein, tu vois, Tim Ferriss, il est célèbre.
Si, quand même.
Non, mais il n'est pas célèbre, il n'est pas Brad Pitt célèbre.
Ouais, mais pas loin dans le monde de développement personnel, il est un des plus grands noms.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en termes de célébrité, il y a plus célèbre que lui, tu vois, il n'est pas Lady Gaga célèbre. Ou
mais
il est pas...
tu sais, c'est compliqué parce qu'un acteur, Brad Pitt par exemple, je sais pas, enfin, c'est un acteur, mais c'est pas un mec qui nous donne des conseils par rapport à comment vivre, tu vois.
Oui.
Donc il dans une certaine manière, en fait, il porte moins d'importance pour certaines personnes, je pense.
Je comprends.
Et en plus, on sait que c'est pas lui qui est dans les films, c'est les personnages qui jouent, en fait. Donc y a des avantages d'être un acteur, mais sûrement il y a des acteurs, je pense, qui diraient l'inverse, je pense, que c'est je sais pas, qui dirait c'est plus facile faire ce que Tim Ferriss fait et qu'il y a beaucoup plus de pression et voilà quoi, beaucoup plus de visibilité, enfin je sais pas.
J'avais vu une discussion, je le mettrai dans les liens du podcast aussi, entre Seinfeld et Obama, où je sais plus pourquoi, mais en fait Obama vient lui dire en fait moi ma vie rêvée ça serait de pouvoir aller chercher le pain le samedi matin en jogging tranquillement. À l'époque il était en plus encore président. Il dit moi la célébrité ça m'intéresse pas, en fait c'est un truc qui est venu, et alors que Seinfeld il était là, moi j'adore. Mais parce que Seinfeld lui il a tout fait pour devenir célèbre, en fait, tu vois, il est monté sur scène, il fait partie de ce chemin là alors que Obama si lui est plutôt venu en plus, c'est pas vraiment son objectif, je pense, d'être célèbre à la base.
Moi je vais tout simplement dire que j'accepte en fait ce qui se passe dans ma vie, parce que en fait j'ai bossé pour avoir ce que j'ai maintenant. Y a des grands avantages, c'est sûr. Par exemple, gagner ma vie de n'importe où dans le monde, ça c'est super cool. C'est cool aussi d'être bien aimé par certaines personnes, enfin quand tu publies des choses, d'être soutenu. Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a?
Non, vas-y.
Il y a aussi un grand prix qui vient avec. En fait, des gens qui toujours posent des questions personnelles ou qui critiquent ou tu vois, genre des choses qui commencent à augmenter, et je suis en train de me rendre compte que c'est un prix plus grand de ce que j'attendais aussi. Donc Faut pas non plus être dramatique, mais je trouve que là, je suis vraiment en mode comment est-ce que je vais gérer ça dans le futur. Okay. Tu vois
On se revoit dans 3 ans alors.
Même. Non mais même un truc simple, hein. Genre dans la vraie vie, par exemple, on pose pas de questions par rapport à la sexualité de quelqu'un, alors que ça se fait. C'est vraiment réfléchir sur Internet parce que voilà quoi, il y a moins de barrières, tu vois. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est encore une fois, la vitesse et la vitesse à laquelle les choses passent, et aussi la quantité de gens qui regardent et qui commentent et tout ça, je trouve que c'est vraiment bouleversant. Et voilà quoi, voilà. Et moi je me considère pas vraiment célèbre quoi. Enfin c'est oui, il y a quand même un peu de gens qui regardent ce que je fais, mais c'est d'imaginer 10 fois ou 100 fois plus que ça qui existe. C'est déjà, je trouve que j'ai dépassé le sweet spot. Je pense que quelques centaines de milliers d'abonnés, c'est pas mal, c'est parfait, mais après ça commence à peser lourd.
OK. Mais de cette là, tu aurais peut-être pas pu gagner aussi bien ta vie,
c'est,
ou
c'est vrai,
peut-être
c'est
pas
vrai.
Pu en gagner.
C'est vrai, mais je trouve que l'argent là ne t'arrives à un certain point où c'est plus trop une question d'argent. Enfin c'est l'argent va pas résoudre certains problèmes, tu vois.
OK.
Enfin, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui.
Tu vois?
Bien sûr.
Et pour le dire encore une fois, c'est une discussion de vraiment privilégiée, encore une fois, parce que sûrement il y a des gens qui écouteraient ça, qui diraient mais mec,
mais en fait ça n'a aucun intérêt pour moi de venir remettre ça en perspective. C'est bien que tu le fasses de ton point de vue si tu veux, mais moi de mon côté, je suis en train de vous offrir une discussion avec Nathan Drew, qui est youtubeur, qui a 1 million d'abonnés. Et en fait, ça m'intéresse de savoir quelle est ta vie. Peut-être qu'il y a des gens qui diront « mec, t'es hyper privilégié ». Et en fait, oui, vous avez raison.
Et j'en suis conscient, tout à fait. Mais je trouve que voilà, tu parlais tout à l'heure de la liberté de manière générale, et je trouve que c'est vraiment un truc qui est hors de prix, en fait. Et encore une fois, je pense qu'on ne sait pas avec quoi on joue maintenant quand on publie des choses sur Internet.
On ne le sait pas encore, sans doute.
Cancel culture et tout ça, c'est ouf.
Qu'est-ce que ça te veut dire, toi, la cancel culture, en tant que...
C'est en fait, il y a une espèce
pour,
de...
Juste pour expliquer un petit peu, la cancel culture, c'est un phénomène qui vient des... je pense des US, hein, à la base, où, et puis des réseaux sociaux d'une manière générale, où l'objectif est de boycotter les gens avec lesquels... Bon, t'es pas d'accord, en fait, d'une manière générale, mais de les boycotter complètement, c'est-à-dire juste de faire en sorte que cette personne-là soit rayée de la carte de la vie, de l'existence publique, médiatique.
Alors, je peux te dire que je comprends d'où ça vient. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère, en fait, parce que le monde va pas bien pour plein de raisons. Et du coup, je crois qu'on est tous en train d'essayer de détoxifier un petit peu le monde. Mais nos moyens pour le faire ne sont pas assez nuancés, je trouve. Et je ne sais pas, j'ai un peu peur de tout ça aussi. Pas parce que je pense que je ne suis pas trop risqué dans tout ça. Enfin, je n'ai pas fait des choses qui choqueraient, je pense, la plupart du monde. Mais quand même, enfin... Sans un script, enfin, je peux parler comme un abruti, comme n'importe qui, tu vois. Tu dis des choses dont tu n'es pas forcément d'accord, même le jour après. Je sais pas, parfois je me pose la question, est-ce que c'est juste une question de temps, en fait, si je continue à publier des choses? Éventuellement, tu vas faire un truc qui est pas hyper bien placé et... Mince, tu vois. Et normalement, dans l'histoire, dans le passé, c'était juste un commentaire que t'as fait peut-être dans une fête et c'était un peu gênant, mais bon, c'était entre potes et c'est pas la fin du monde. Là, si tu le fais sur Internet, c'est chaud.
Waouh. Un pacte avec le diable, comme tu disais.
c'est d'où cette expression vient, je pense.
Oui.
Voilà.
C'est quoi tes projets, Nathan?
En ce moment, ouais. Ou pour le futur? Ouais. Là, je vais faire, je vais annoncer pour la première fois, parce que j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Je vais faire une petite pause, en fait, pour réfléchir. Donc, un mois sans publier les vidéos. Ça, c'est l'idée. Mmh. on verra si j'arrive à m'abstenir comme ça.
Pourquoi tu veux faire ça?
Eh bien, le documentaire a très bien expliqué, je pense, pourquoi c'est nécessaire de déconnecter de temps en temps. Je trouve que cette année a vraiment été un cirque pour surtout les Américains, et ce n'est pas encore fini avec les élections qui se passent. Et prendre des petites pauses comme ça. J'ai fait un truc du genre au début de cette année, d'une semaine, dans une, on peut dire une cabane dans la forêt.
Ouais.
Dans la forêt. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de me déconnecter de l'Internet. Ou d'Internet, plutôt.
On dit les deux.
Et je sais pas, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on... en face, en fait, dans ce monde qui est vraiment, qui va sans cesse. Je l'ai fait il y a 2 ans avant de commencer à publier régulièrement. Et c'était un petit voyage de quelques semaines que j'ai fait. Et ça m'a donné énormément de clarté par rapport à ce que je voulais faire. J'ai hâte, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un moyen pour trouver des réponses pour cette prochaine étape qui va venir dans ma vie, quoi.
Donc ton projet, c'est d'arrêter, de faire une pause. C'est un super projet.
Ouais, de me déconnecter complètement pendant un mois et essayer de faire d'autres choses, écrire, faire de la musique. Enfin, on verra, quoi. Tu vois. Mais
t'as pas peur d'être désœuvré?
On verra. J'essaie de ne pas avoir des attentes, okay. Mais il y a toujours en fait cette petite peur d'être oublié par. De perdre la pertinence, en fait. Je sais pas. Je pense que si j'arrive à faire des choses intéressantes dans le futur, les gens vont venir le voir. Donc, mais aussi, j'essaie aussi de me rappeler que je suis, encore une fois, je suis jeune. Enfin, si je perds tout là, c'est pas non plus la fin du monde. J'ai encore le temps. Je sais pas. Faut pas trop m'attacher aux choses parce que ça peut vraiment créer des vrais problèmes, tu vois, de quand tu fais trop d'efforts pour garder ce que tu avais dans le passé. Je sais pas.
Je ne te dis, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, tu sais.
C'est vrai.
Écoute, merci beaucoup. Merci déjà d'avoir voulu jouer le jeu parce que, en fait, hors micro, tu me disais que tu avais un peu la pression de venir faire cette interview, déjà que t'en fais pas beaucoup, si j'ai bien compris.
Ouais.
Et t'en fais pas non plus, t'en as jamais fait en français.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, tu te débrouilles super bien, mec.
Merci beaucoup. Vraiment. J'espère que ça, ça allait.
C'était trop bien.
Je te remercie aussi pour l'opportunité de
avec
le faire, de m'inviter déjà. C'est un grand honneur et c'est cool. En fait, c'était cool de parler avec toi.
Ok. Trop bien. Bon courage à toi. Dans la vie et dans cette étrange année 2020. Et puis pour ton break aussi.
Ouais, merci. Oh. J'ai hâte.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.